On déhousse les raquettes.
1, 2, 3.
Bonsoir, moi c'est Laura Vidal.
Bonsoir, je suis Cédric Clapiche.
Et je suis Mathilde Serrel.
Et je suis Martin Kénéen.
Cédric Clapiche, réalisateur, scénariste, dialoguiste et photographe. En une dizaine de films, vous avez su raconter la jeunesse urbaine de Paris, Londres, Saint-Pétersbourg, Barcelone ou New York face à ses choix et ses mutations. Et pour la première fois, vous partez à la campagne, dans les vignobles de Bourgogne, avec Ce qui nous lie qui sortira en salle mercredi, histoire de transmission et d'affirmation. Un autre vin et un autre soi est possible. Laura Vidal, vous auriez pu être une héroïne de Clapiche. Formée à la finance, c'est la carrière de sommelière que vous avez finalement embrassée, quittant le Québec natal, faisant le tour du monde, imposant une expertise sur les vins naturels et vivants, comme la restauration décloisonnée de votre Paris pop-up, que vous installerez bientôt aux rencontres internationales de la photographie d'Arles. Ce soir, le vin s'écoute comme une culture et une contre-culture.
Ping-pong, la culture sans limite.
Oh, yeah.
Et dit tout.
Chablis, Bourgogne, grand château du Bordelais, Chinon, Tursan, Sainte-Croix, Dumont, Châteauneuf ou Beaujolais.
Bon, alors ce n'est pas encore la saison des vendanges, mais vous l'aurez remarqué, c'est celle des élections. Et l'on peut dire que pour Emmanuel Macron, cette année s'annonce comme un bon millésime. On ne sait pas encore vraiment ce qu'il compte mettre en bouteille au château, le surnom de l'Élysée, mais on pourrait filer longtemps la métaphore vinicole, car le nouveau président de la République ne cache pas son goût pour la dive bouteille. Macron, qui, lorsqu'il était à Bercy, avait déjà assoupli la loi Evin pour faciliter la communication autour de l'œnotourisme. Et lui qui vient de prendre pour conseillère à l'agriculture Audrey Bourrolo, une ex-lobbyiste de la filière. En outre, notre nouveau magistrat suprême, qui aime innover, le soir de son élection a troqué le champagne pour un rosé effervescent nommé La Vie en Rose, produit par Valérie Roussel, propriétaire du Château Roubine. Macron aime donc le rosé provençal. Pour le blanc, sa préférence, dit-il, va au Bourgogne et au Bordeaux pour le rouge. La sommelière de l'Élysée, Virginie Routis, va donc voir du pays. Mais attendez, Virginie Routis, Valérie Roussel, Audrey Bourrolo, les femmes, d'évidence, ont pris d'assaut les caves du 55 rue du Faubourg Saint-Honoré. Quelle belle promesse! Et si l'on en croit encore le bouillant Emmanuel, qui après une dégustation à l'aveugle chantait récemment à Bordeaux, je cite, « Le vin, c'est l'âme française », eh bien, nous voilà, en vertu de l'adage cher à Pline l'Ancien, hein, « in vino veritas » devant une vérité. Alors, il y a une autre vérité que je n'ai pas osé mettre dans cet édito prétendument culturel, qui est un peu agriculturel ce soir, Cédric Clapiche, c'est que, d'après l'expert en vin du magazine Le Point, Jacques Dupont, l'année 1977, année de naissance d'Emmanuel Macron, est l'un des pires millésimes du siècle. On va pas s'y attarder. En revanche, il y a quelque chose d'important avec toutes ces femmes qui produisent, qui mettent en bouteille, qui choisissent les vins autour du nouveau président et donc, voilà, du premier magistrat et du premier ambassadeur de la culture française. Toutes ces femmes, ça résonne évidemment avec l'héroïne qui est au cœur de cette fratrie de votre nouveau film « Ce qui nous lie », c'est Juliette, Anna Girardeau, qui est donc cette vigneronne qui va prendre ses responsabilités. C'était un choix non seulement de scénariste avec votre camarade scénariste Santiago Amigorena, mais c'était aussi un choix presque politique de choisir une héroïne femme pour cette histoire qui se passe dans les vignes du Bourgogne. Bon,
disons qu'ils sont vraiment trois. C'est vraiment une histoire d'une fratrie. Donc les trois frères et sœurs sont héros à trois, disons. Mais c'est vrai que je dis à quel point elle est plus douée que ses deux frères pour goûter du vin dans le film. Et c'est vrai qu'on est parti de la documentation. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de femmes vigneronnes. Il y a eu maintenant des grandes femmes. En Bourgogne, Anne-Claude Leflève a vraiment ouvert une voie, je pense. On parlait d'Alix de Montilly tout à l'heure. Il y a eu aussi Anna Girardeau. C'est beaucoup documenté en parlant avec Lorraine du domaine Comte-Sénart, où il y a vraiment quelque chose dans la façon de faire du vin des femmes qui a changé beaucoup depuis, on va dire, 20 ans, en Bourgogne en tout cas.
Laura Vidal, on a besoin évidemment de votre regard là-dessus. Vous rendez grâce à Catherine Breton, viticultrice dans la Loire, de vous avoir formée. En tant que sommelière, comment est-ce qu'on observe cette place des femmes grandissantes dans le monde du vin? Parce qu'il y a des chiffres, hein, on peut les rappeler peut-être. À la tête de Domaine Viticole, elle représente désormais 25,5% des chefs d'exploitation. On est sur une augmentation depuis 1970, c'était 8%. Donc c'est assez notable. Et par ailleurs, il y a aussi cette vieille légende qui disait qu'avant, lorsque les femmes se baladaient dans les vignes, elles faisaient tourner le vin. Alors, comment on est passé de ça à cette situation quand même qui a bien évolué?
Je pense qu'il faut, définitivement se rappeler que durant les guerres, les femmes s'occupaient du vin pendant que les hommes partaient au front. Donc, bien sûr que les femmes ont toujours une place dans la viticulture, peut-être pas nécessairement à la vinification ou en chef de, en chef entre guillemets de l'exploitation, mais définitivement. Autant dans les paperasses, on les retrouve souvent, et d'ailleurs elles tiennent la finance du domaine. Donc finalement, elles ont elles ont toujours eu des rôles en fait. Après, c'est vrai que vigneronne, les choix, œnologue, c'est vrai que c'est plutôt récent. Mais je pense que, comme disait Cédric, c'est très poussé par les femmes qui ont ouvert la voie. Donc, il a bien sûr cité Anne-Claude Leflève. On peut penser aussi à la Louise Leroy.
Sandrine Garbet, par exemple, c'est une figure définitive ou pas? Sandrine Garbet, il y a 18 ans, elle est poste de maître de chais. Donc, au château d'Yquem, c'est quand même pas n'importe quoi. Alors là, c'est du vin de chais, c'est-à-dire où on ajoute aussi des choses. C'est différent du vin, ça c'est du vin traditionnel, c'est différent du vin naturel. Et elle va quand même pas mal ouvrir la voie. Il y a qui d'autre pour vous? Catherine Breton, que vous citiez?
Oui, Catherine Breton, c'est bon, elle vient d'une famille de viticulteurs, mais elle n'était pas du tout intéressée par le vin jusqu'à ce qu'elle rencontre Pierre, son mari, qui était vigneron. Et grâce à lui, ils se sont, entre guillemets, je veux dire, ils ont uni leurs deux univers. Donc elle, Vouvray, lui, Bourgueil. Mais on peut penser aussi à des histoires comme Athénaïs de Beru, à Chablis, qui n'était pas du tout destinée pour ça et qui a eu l'opportunité de reprendre le domaine qui était en fermage, suite justement à la mort de son papa. Il avait été donné en fermage quand elle était très jeune. Et donc, elle a eu l'opportunité de le reprendre et elle arrivait vraiment en novice totale dans ce nouveau rôle. Et donc, il a fallu qu'elle fasse ses preuves devant beaucoup de gens qui avaient des années d'expérience. Et donc, elle revenait de Paris où elle avait fait ses études, elle s'intéressait au vin, mais bon, c'était pas acquis. Donc, je pense qu'il y a, il faut vraiment honorer ces femmes fortes qui, justement, poussent et ouvrent la voie à un domaine qui a été longtemps en effet dominé par les hommes. Donc c'est inspirant, je crois, ce genre de film pour cette raison.
Cédric Lapiche, j'ai cité Emmanuel Macron, notre président de la République, qui lui doit son amour du vin, dit-il, à ses grands-parents, sa grand-mère et son grand-père, pour qui le vin rouge est un antioxydant, disait-on dans la famille Macron. Vous, je crois qu'il y a votre père qui joue un rôle très important dans votre initiation au vin, mais est-ce qu'il y a une femme puissante, une femme forte aussi dans votre histoire avec le vin?
Non, c'est vrai que ça vient plus de mon père. C'est-à-dire que moi, mon père ne boit que du Bourgogne et nous a amené très tôt, moi et mes deux sœurs, en Bourgogne, à faire des dégustations dans les caves et à visiter la Bourgogne. Donc ça vient vraiment de lui. Puis ensuite, après, j'ai eu un beau-père qui était très Bordeaux, qui ne boit que du Bordeaux. Donc du coup, j'ai eu la double culture.
Il n'y a pas des femmes qui vous ont fait boire pour oublier, ne serait-ce que pour oublier?
Si, alors des femmes qui m'ont fait boire, il y en a beaucoup, mais je vais pas les citer ici. Mais
il y a Santiago Amigorena qui écrit toujours les films avec vous, ouais. Qui est écrivain argentin. Peut-être que vous avez un amour du vin en commun. Je me suis dit que, alors, oui, en tant qu'argentin, il devait aussi y verser un petit peu.
Alors bien sûr, mais c'est vrai qu'on a écrit Le Péril Jeune ensemble, donc on était au lycée ensemble, donc on se connaît depuis longtemps. Et lui a produit quelques films de Jonathan Nociter, notamment les films sur le vin naturel.
Résistance naturelle,
ouais. 2014. Et c'est vrai qu'il a une connaissance de ça, et c'est lui qui m'a initié au vin naturel, parce que moi j'y connais pas grand chose. Enfin, en tout cas, j'y connaissais pas grand chose il y a 3 ans. Puis là, je suis en stage, donc j'apprends petit à petit. Mais c'est vraiment encore une autre culture, je dirais.
Alors ce soir, eh bien, on pourrait citer Truffaut, l'homme qui aimait les femmes, mais on a affaire à une femme et un homme qui aiment le vin.
Ping-pong. C'est sur France Culture.
Quand j'étais petit, tous les matins, je regardais par la fenêtre et je me disais, tous les matins, ça change.
Un jour puis sans punir et des ailes dans les yeux. Fuis la route, suis le fil.
J'ai eu envie de faire le tour du monde.
Du soleil dans mes yeux.
Et voilà, j'ai fait le tour du monde.
Jean?
C'est pas vrai.
Tu sais combien de temps ça fait que t'as pas donné de nouvelles?
4 ans et 11 mois.
Putain, Juliette, ça fait des mois qu'on s'occupe de papa, qu'on s'occupe du domaine, qu'on s'occupe de tout. Et lui, il est là, il vient.
Quoi, moi, quoi? Mais qu'est-ce que tu connais à ma vie, toi?
Ah, hein? Parce que là, on est d'accord, je connais rien de ta vie.
Raisin rouge pour médaille, une bataille.
Oh! Enfin, je me dis que je suis plus parti pour fuir.
Mais t'es revenu.
Quand le voyage m'en lasse.
L'amour, c'est comme le vin.
Ce qui nous lie est là.
Faut du temps.
Ça donne pas envie de rester, là, tout ça?
Et qu'il n'y en a plus! Y'en a encore!
Ça, tu devrais avoir sur le téléphone.
Pourquoi? Qu'est-ce que...
Vous êtes là à me regarder avec vos grosses couilles.
Quoi? J'ai pas entendu.
Wow, c'est festif, il y en a partout. Poup, 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 ça pétard dans les papilles.
Qu'est-ce qu'il raconte là, toi? Oh, regardez, je ne suis qu'un petit ver de terre. Plastico, je ne suis qu'un aussi.
On va se boire un coup?
François Civil, à l'instant, Anna Girardot, hein, dans le rôle de celle qui va prendre la tête de l'exploitation. Et puis, bien sûr, Pio Marmaille, qui est le narrateur, comme on a eu Xavier souvent dans vos films, Cédric Lapiche. Et bien là, le voilà, ce récit d'une fratrie qui va, suite à la mort du père, récupérer l'exploitation du vignoble en Bourgogne. Ils y font du pinot. Il y a une mutation qui va aussi s'opérer par rapport à ce que proposait le père. Dans vos films, je disais que vous étiez souvent dans le récit d'une jeunesse urbaine par rapport à ses choix. Et là, comme dit Truffaut, on fait toujours le même film. Et finalement, vous n'y échappez pas, parce que même si on est dans la situation de, voilà, d'une exploitation viticole, c'est aussi la question de l'affirmation et du choix de vie à nouveau qui se pose avec Ce qui nous lie, qui sort mercredi.
Ouais, c'est-à-dire que effectivement, on se refait pas, et donc du coup, on tourne toujours autour des mêmes sujets. Donc, même si les paysages sont différents, si c'est pas urbain, si c'est d'autres acteurs aussi par rapport aux acteurs avec qui j'ai l'habitude de travailler, il y a des choses qui reviennent. Mais c'est justement, c'était ça qui était intéressant dans ce film-là, c'était de me pousser à faire autre chose et d'avoir d'utiliser le vin comme une métaphore et de parler des choses qui m'intéressent à travers cette métaphore, quoi.
Alors, ce qui est intéressant aussi avec ce film et assez fascinant en termes d'image, Cédric Lapiche, c'est que je crois que c'est un tournage et un projet qui vous trotte dans la tête depuis longtemps, sur lequel voilà, vous avez cherché des images, des photographies, puisque on le sait, vous êtes aussi photographe amateur éclairé de photographie avant de vous lancer dans ce film. Et puis c'est un film qui a duré 10 mois, je crois, de tournage et qui avance au rythme des saisons et de cette récolte. Et il se trouve que quand vous avez commencé le cinéma, vous avez dit que vous vouliez pas faire du Godard ni du Romère, et j'ai eu l'impression qu'avec ce film des 4 saisons, vous faisiez finalement du Romère.
Je sais pas. Non, c'est-à-dire que à l'époque, il y avait vraiment un discours très très dictatorial, je dirais, des réalisateurs de la nouvelle vague. Donc c'était une façon de moi de me séparer de ça en disant j'ai pas forcément envie de faire le cinéma des gens qui avaient 30 ans de plus que moi. Donc je sais pas, moi j'essaye pas de me comparer à d'autres réalisateurs. Là, c'est vrai que dans ce film-là, j'ai l'impression en tout cas de, enfin le but c'est de parler du temps qui passe. Et après, il y a beaucoup, enfin il y a plein de fois avec le chef opérateur, on se disait que ça fait nouvelle vague, parce que il y a un mélange documentaire fiction, parce qu'il y avait une espèce de volonté de coller des choses vraies avec, enfin des choses authentiques avec de la fiction. Et donc peut-être à cause de ça, il y a un rapport, effectivement.
Il y a de l'amour et du paysage, il y a même un arbre.
Ouais, il y a un arbre, oui, que j'ai cherché longtemps, le but c'était de le montrer aux 4 saisons, donc il fallait trouver le bon arbre avec le bon paysage, parce que on savait que cette image allait durer, disons.
Et justement, le vin, est-ce qu'il n'est pas devenu un objet de cinéma au-delà d'une métaphore? La métaphore, peut-être pour le préciser pour les auditeurs, c'est la métaphore de la transmission, puisque en héritant de ce domaine viticole, bah, c'est toute l'idée de la transmission qui se raconte. Et aussi cette vigne, quand elle est vieille, hein, quand elle a 85, 100 ans, qu'on finit par arracher, c'est aussi des décisions qu'on prend dans la rupture d'une histoire familiale. Donc il y a toute cette métaphore du vin qui est une métaphore, voilà, de l'histoire intime et de l'histoire des familles. Mais il y a aussi, le vin et le milieu du vin comme objet de cinéma. Est-ce que vous y avez pris plaisir à ces images de vendanges aux pieds nus, à ces vignes que vous filmez à perte de vue, effectivement, à ces changements de saison? Est-ce qu'il y a eu un plaisir du vin comme objet de cinéma?
Bien sûr, même, enfin, je sais que on se réfère beaucoup au mot sensualité, c'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose avec l'essence. J'imagine que Laura pourra en parler en tant qu'œnologue, c'est-à-dire que quand on goûte du vin, quand on déguste et que on doit séparer des goûts et qu'on doit avoir des émotions, il y a vraiment quelque chose qui est très vite sensoriel et qui devient sensuel. Et c'est vrai que quand on le filme, parce que moi j'ai le même problème que vous, j'entendais la bande-annonce ou à la radio ou au cinéma, il y a le goût et l'odeur qui ne passent pas. Et du coup, il faut arriver à transmettre...
Sauf dans Polystyrène, je crois que ça a été une tentative des années 70. Il fallait gratter pour les odeurs, mais ça n'a pas été beaucoup renouvelé.
Mais du coup, il faut arriver à trouver des traductions. Et c'est vrai que je disais l'autre jour que la chanson de Camélia Jordana, pour moi, elle me fait penser à la suavité du vin. Donc avec une chanson ou avec des images, on essaie de retransmettre des goûts ou des odeurs qu'on n'a pas dans une salle de cinéma.
Mais alors à cet égard, puisque vous êtes face à Laura Vidal qui s'y connaît un petit peu, qui connaît même les terroirs dans lesquels vous avez planté votre caméra, les rangs de vignes là où vous avez planté votre caméra en Bourgogne, Cédric Lapiche, vous nous décririez, puisque ça passe notamment par des mots dans votre film Ce qui nous lie, vous nous décririez ce vin de Bourgogne que produisent ses frères et sœurs?
Bah là justement, alors là maintenant on appelle ça les climats, c'est-à-dire que ça décrit à peu près les parcelles qui existent en Bourgogne, il y en a plus de 1400, et chaque parcelle a un goût différent, une géologie différente, une orientation au soleil différente, et tout ça crée des goûts différents. Mais c'est vrai que ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait qu'il y a que deux cépages en Bourgogne, il y a le chardonnay et le pinot. Le pinot, ça fait le rouge, et le chardonnay fait le vin blanc. Et c'est vrai que c'est très particulier par rapport à d'autres régions. On fait ce qu'on appelle de l'assemblage, c'est-à-dire qu'on a plusieurs sortes de raisins et qu'on mélange. Là, on utilise ce qui est spécifique à une parcelle avec le pinot pour le rouge et le chardonnay pour le blanc. Et
avec vos mots, ça donne quoi, Laura Vidal?
Je pense que, en effet, c'est hyper intéressant. La Bourgogne, c'est tous les sommeliers que je connaisse, inévitablement, gravitent vers la Bourgogne, puisque c'est l'apogée de la beauté du vin et du meilleur vin. Enfin, justement pour cette raison-là, parce qu'on a vraiment la traduction dans un verre, d'un terroir très précis, qui est imprimé sur un cépage, qui vit dans un lieu particulier, dans un climat particulier. Donc, climat, ça veut dire parcelle, en gros. Mais, en effet, elle est soumise à des intempéries parfois, ou bien beaucoup de soleil à d'autres moments. Mais il y a aussi dans le mot terroir la personne qui fait les choix et l'énergie qu'elle y apporte. Donc que ce soit une femme ou un homme qui fait le vin et qui s'occupe des vignes, c'est traduit dans le verre autant que le climat sur lequel les raisins sont plantés.
Oui, il y a vraiment une idée de signature. Les vignerons signent leur vin de la même façon que le terroir signe le vin.
Ouais. Et les choix dans le film qui sont faits par les différentes la fratrie, justement, ils discutent des différentes options, à quel moment, comment on fait. Et donc, c'est ces décisions-là, c'est ces moments-là qui sont aussi une empreinte qu'on peut inclure dans le mot terroir sur le vin lui-même, pas juste le climat, la tempête ou le soleil, ou ce genre de choses.
Il y a une scène où Pio Marmaille, donc, qui est le héros narrateur du film, au sein de cette fratrie, hein, dans Ce qui nous lie, dit au beau-père de son frère: mais ton vin, il est trop propre. Je voudrais l'éclairage de la sommelière que vous êtes, Laura Vidal, sur cette expression: ton vin, il est trop propre.
Trop aseptisé. Donc, en général, je pense qu'il voulait faire une référence à la filtration et au collage. Donc, les vins, bien sûr, vous les voyez quand ils ont les pieds dans les cuves, en train de tout piger, faire le pigeage et le foulage, pour justement encourager les levures qui vivent sur les peaux des raisins à manger le sucre qui est produit par le jus de raisin, pour le transformer ensuite en, bien sûr, gaz carbonique, mais aussi en alcool. Et donc, tout ça se passe, et ils essayent, en fait, dans ce principe, c'est de justement garder la vie du vin et de pas trop filtrer. Quand on filtre de façon stérile un vin, ça veut dire qu'on lui enlève toutes ces petites particules qui le nourrissent et qui, sur le temps, rajoutent des saveurs et des flaveurs qui vont faire en sorte que dans 30 ans, ça va goûter quelque chose de très intéressant, qui est représenté par le terroir, parce que ces levures vivent sur les peaux des raisins. Donc si on filtre tout, toutes les levures sont filtrées, tous les goûts sont filtrés, on a plus la pureté et l'intérêt, en fait. Donc je pense qu'il disait: c'est trop propre, c'est trop protégé, c'est trop filtré. Donc ça veut dire qu'on peut l'envoyer à travers le monde entier, il peut passer à travers chaleur et froid, mais il n'y aura plus cette vie dedans, en fait. Donc je pense que c'est à ça qu'il...
Oui, absolument. Puis il y a une même idée dans le fromage
c'est le camembert.
La fameuse histoire du camembert.
Avec un lait pasteurisé, quoi.
Voilà,
c'est ça. Pêché.
C'est comment, effectivement, quand on fait du roquefort ou du camembert, il y a besoin d'une sorte de pourriture saine.
Mais un mot justement sur ce mot qu'on a entendu prononcer dans la bouche de Laura Vidal, ça va bien goûter. On l'entend aussi dans votre film, hein, Ce qui nous lie. Il goûte bien déjà. On nous parle d'acidité. J'ai parlé de cette expression: ton vin, il est trop propre. Vous avez travaillé avec Jean-Marc Roulot pour écrire le film. Enfin, quelle distance vous avez eue avec ce vocabulaire technique quand même? Enfin, comment vous avez joué avec ça, Cédric Lapiche? Parce que vous êtes renseigné quand même énormément, et après, ouais, il a fallu faire quelque chose aussi de populaire au sens noble.
Ouais, absolument. C'est-à-dire qu'il faut traduire pour les gens. Et c'est vrai que tous les vignerons parlent, alors là on parlait de la fermentation alcoolique, il y a aussi la fermentation malolactique, et donc tous les vignerons attendent le moment où le jus fait sa malo, et donc du coup, si on parle que dans des termes comme ça, les gens comprennent rien, et donc on est obligé à la fois de se référer à une réalité, parce que c'est vraiment les techniques utilisées par les vignerons, et en même temps il faut traduire les choses, et donc du coup toutes ces histoires de soutirage, de filtrage, de tous ces mots-là, moi j'étais obligé de les expliquer dans le cours du film, c'est-à-dire que on voit en hiver par exemple qu'ils coupent les branches mortes, ben on sait pas exactement ce qu'ils font, mais on voit que c'est un travail en hiver, on coupe les branches, on les fait brûler, il faut pas couper n'importe quelle branche, donc il y a ce travail de sarmentage, il est j'étais obligé, disons, de traduire à chaque fois pour que tout le monde comprenne, quoi.
Laura Vidal, on l'entend dans votre conversation depuis le début de cette émission. Le vin, c'est une histoire d'amour, un amour à consommer avec modération, bien sûr, pour nos auditrices et nos auditeurs. C'est aussi une dimension technique que vous abordez très bien et l'un et l'autre. Mais vous disiez, Cédric Lapiche, à propos de votre film, c'est pas du tout une comédie, mais avec des choses très drôles dedans. Est-ce qu'on peut dire que le vin, d'une certaine façon, c'est ça aussi, quelque chose qui n'est pas une comédie, qui est extrêmement sérieux et qui, en même temps, il y a des choses très drôles dedans?
Je pense que c'est la notion d'ivresse, en fait. C'est d'arriver à trouver le moment. Il y a toujours un moment, après quelques délicieux verres de vin, il y a un moment où on se sent vraiment bien. Et c'est...
Quand on perd les consonnes.
Ouais, dans le film de Cédric Lapiche, pour expliquer, voilà, Anna Girardot est un peu sous, ouais. Et elle a perdu les consonnes. Et on trinque à la mort des consonnes.
C'est pas... Enfin, je crois que là, ils sont allés un peu trop loin, mais ça, c'est aussi sympa. Et puis, bon, le lendemain, ça fait mal, mais c'est pas grave. Non, là, je pense qu'en effet, il y a un moment très poétique où on arrive à comprendre le vin en le goûtant et en le laissant, en fait, être ce qu'il est. Donc, ceux qui cherchent trop, qui sont dans la technicité trop intensément, perdent justement ce côté qu'on peut pas trop expliquer, en fait, de la magie du vin, en fait, finalement. Et je pense que dans le film, c'est très bien traduit. Je pense qu'on sent aussi qu'ils ont besoin de décompresser après tout le stress des vendanges. Et donc, en effet, là, la soirée où elle perd les consonnes, c'est peut-être pas le moment où elle vit la magie du vin complètement. Mais bon, c'est un moment de festivité. Et ça, le vin, c'est festif. Il faut que ce soit justement un truc qui se partage et qui fait en sorte que les gens de différents backgrounds peuvent être sur la même page, finalement.
Ouais. Mais effectivement, il y a une double identité du vin avec quelque chose de très sérieux, presque scientifique, avec un truc très raisonné, comme on dit, et quelque chose qui est voilà, l'ivresse, le lâcher prise. Et je pense que le dieu Dionysos raconte ça, c'est-à-dire que c'est à la fois le dieu de l'excès et à la fois il y a un rapport avec la raison. Enfin, c'est fou à quel point.
Avec
chez
la poésie.
Ouais, et avec la poésie. Et c'est ça que je trouve intéressant dans le vin, c'est que c'est un produit poétique. C'est-à-dire que c'est justement pour ça qui produit de la poésie, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est profondément humain, parce qu'on est sérieux et on est déraisonnable à la fois.
C'est l'apollinien, le dionysiaque et cet
Absolument.
Équilibre. Et au-delà justement de la poésie, on a aussi parlé de cette métaphore du vin dans le récit, dans le scénario, Cédric Lapiche. Est-ce qu'il y a quelque chose pour vous aussi de politique dans cette expérience du vin, dans ce que vous racontez dans cette exploitation en Bourgogne?
Alors, d'une part, il y a quelque chose sur le partage. Le vin raconte l'idée du partage.
Ce qui nous lie, c'est quand même une métaphore sociétale.
Absolument, c'est vraiment sur l'idée de la fraternité. Et c'est pour ça que ça parle d'une fratrie, c'est que moi je voulais parler de la fraternité. Et le vin raconte la fraternité. Quand vous allez chez des gens, vous amenez une bouteille de vin. C'est pour être ensemble et c'est pour partager des choses. Mais il y a aussi, alors en ce moment, disons, alors ça c'est plus sociétal, il y a les histoires de bio, où là il y a des vraies questions politiques et où tout à l'heure on parlait des différences entre bio, biodynamie, vin naturel,
vin traditionnel,
vin traditionnel avec l'utilisation des produits chimiques ou des insecticides. Là il y a des positionnements très politiques et en tout cas c'est vrai que c'est en ce moment, en tout cas, il y a des choix politiques que les vignerons font ou que les agriculteurs font en ce moment.
Vous pouvez peut-être les expliquer pour les auditeurs qui ne les connaissent pas.
C'est-à-dire que il y a à la fois des raisons économiques, mais par exemple la biodynamie, il y a un chiffre que je trouve intéressant. On dit qu'en Bourgogne, il y a 10% de la Bourgogne qui est en biodynamie, et il y a 60% des grands crus qui sont en biodynamie. Je trouve que ça raconte bien ce que c'est la biodynamie. C'est-à-dire que c'est quelque chose où on n'utilise pas donc de produits chimiques. On fait des, enfin si je dois résumer, parce que c'est assez complexe la biodynamie, mais on fait des espèces de tisanes pour préserver la plante et préserver les sous-sols. Et en fait, en faisant ces traitements-là, les grands crus ont compris que le vin est meilleur, à la fois d'une façon sanitaire, mais à la fois dans le développement du goût. C'est un peu ce que racontait Laura tout à l'heure, sur comment on aide la plante à être elle-même et à pas l'aseptiser. Donc c'est plus cher, par contre, parce qu'il faut plus de gens pour traiter les vignes. Il faut les traiter plus régulièrement. Et donc, du coup, ces choix-là, il faut les faire domaine par domaine, quoi.
Symboliquement, on n'a pas besoin de voir le vin, on le sent, c'est un vin de nez le Bourgogne, tandis que prenez même un Margaux ou un Latour, si c'est un vin jeune, de moins de 10 ans, vous ne sentez rien du tout. Alors vous pouvez avoir un goût très très agréable, mais c'est long, hein, ce ne sont pas des vins de nez, ce sont des vins de palais, de méditation qu'on doit retourner longuement dans sa bouche, comme on lit la Bible en la feuilletant à l'envers, à l'endroit, et le vin de Bordeaux est comme ça, et c'est très bien aussi. Mais tandis que le vin de Bourgogne, même des très grands vins, quand il est bien fait, qu'il est à point, vous avez envie d'en boire beaucoup. Un verre en appelle un autre, et appelle une chanson, appelle une plaisanterie.
L'automne rougit les pampres vermeils afin de remplir la tonne sous la pluie ou le soleil. Sur les coteaux, dans le vent, bagnés en main et gaiement, vendangeuses et vignerons dans les rangs en chantant.
À l'instant, alors qu'on évoque à raison l'importance de la question phytosanitaire, de la question de cette viticulture qui tue et qui est un point essentiel aussi du drame qu'est ce qui nous lie votre film Cédric Clapiche, avec la mort du père et cette viticulture qui est faite parfois au mépris de la vie. On entendait à l'instant le grand géographe et grand amateur de vin éclairé, Jean-Robert Pitt, qui distinguait, Laura Vidal, le Bordeaux qui serait un vin de nez, un vin plus long, alors que le Bourgogne appellerait comme ça la boisson, on aurait envie de le feuilleter, de passer une page après l'autre, ça serait une sorte de page-turner, sauf que là ce serait des vers qu'on s'envoie, avec la poésie qui est la vôtre, celle de la sommelière que vous êtes. Est-ce que vous nous chanteriez peut-être un vin que vous allez proposer aux amateurs en Arles, puisque vous participez avec l'équipe du Paris Pop-Up aux rencontres de la photographie d'Arles, ça commence d'ailleurs dès mercredi.
Sur le thème de la passation et de la, enfin, de léguer justement les vignes, je vais citer Paul Breton, qui est donc le fils de Catherine et Pierre Breton et qui a repris des vignes sur Vouvray du domaine familial, qui a fait son premier millésime, qui est quelqu'un que j'ai rencontré il y a 6 ans, qui était beaucoup plus jeune et très, enfin bref, je pense qu'il avait pas encore mué, et donc du coup maintenant c'est le cas, c'est bon Paul, excuse-moi.
Il a le droit de boire donc.
Et son vin est extraordinaire parce que c'est quelque chose qui... Bon, je l'ai goûté à une dégustation en Loire qui s'appelle la Dive Bouteille. Et c'est d'une minéralité incroyable, belle acidité, un peu mielleux. Et donc, j'en ai commandé tout de suite pour encourager, bien sûr. Et aussi parce que je trouve ça délicieux. Donc, il sera servi à Arles sur la terrasse Place du Forum avec beaucoup d'amour.
Et est-ce qu'au fond, Laura Vidal, il y a dans le métier de sommelier, et on voit, il y a beaucoup de scènes de dégustation hein, dans ce qui nous lie de Cédric Clapiche, où on essaye d'attraper l'expérience du vin, ce qu'il est, essayer de le définir. Bon, d'abord, on le sent et on le regarde avant de le goûter, bien sûr, mais est-ce qu'il y a une littérature, finalement, une écriture, comme ça, littéraire, de la description du vin, quand on pense à des mots comme acerbe, pour cette sensation désagréable en bouche, mille érandages, c'est la coulure partielle où les fleurs sont pollinisées mais pas fécondées, nous la période de juin pendant laquelle les fleurs sont fécondées, c'est beau.
C'est oui, en effet.
Perlant,
c'est beau. C'est des termes qui sont des fois perdus sur les gens qui sont pas nécessairement à l'étude de toutes ces choses-là. Personnellement, je préfère parler très simplement du vin. J'aime bien les mots comme l'acidité parce que tout le monde s'y retrouve. Ou bien parler de fruits. Donc là, c'était bien parce que donc Juliette disait
ça dans le film de Cédric,
elle disait justement Juliette disait à un moment donné c'est citronné. Et ça aide. Donc quand beaucoup de gens demandent quel vin vous me conseillez, je leur dis est-ce que vous aimez plutôt les citrons, les oranges, les bananes, quel genre de fruits est-ce que vous préférez? Je pense que c'est plus sympa d'utiliser ce genre de terminologie que de rentrer dans des choses parfois qui sont perdues sur le grand public.
Alors et le vin, c'est...
Une question peut-être non, juste sur l'écriture du coup de Cédric Lapiche puisque vous signez donc scénario et dialogue aussi sur ce film et sur le récit au jeu qui est quand même votre marque de fabrique. On a parlé de votre héros Xavier alias Romain Duris dans les autres films. Là, c'est Jean Pio Marmaille qui joue le rôle du narrateur. En quoi c'est important pour vous toujours cette voix off, ce récit littéraire dans les films de Clapiche?
Alors justement, enfin c'était beaucoup dans l'Auberge espagnole et les poupées russes et Castel chinois, je jouais avec le fait qu'il parle mal. C'était justement pour se séparer de Truffaut qui, lui, dans les voix off de Truffaut, il y a quelque chose qui est très littéraire et il y a du bien parler. Et là, je voulais retrouver ce qu'on a un peu dans sa tête quand on hésite et que... en fait, ma référence, c'était le petit Nicolas de Goscinny, où le petit Nicolas, il dit « Aujourd'hui, il y a eu photographe ». Et donc, il parle comme un enfant de 10 ans et donc la voix off, en tout cas la voix de ce petit enfant... c'est assez charmant comment il fabrique un langage. Et c'était un peu ça l'idée de l'Auberge espagnole, de dire voilà, ça a commencé comme ça, mais non, ça n'a pas commencé comme ça, ça a commencé plutôt comme ça, et qu'il parle comme ça, il parle de façon très brouillon, je dirais. Donc j'aime bien faire le rapport entre ce qu'on montre à l'image et la voix intérieure du personnage, parce qu'on voit le décalage. C'est-à-dire que quand il arrive à Barcelone, il dit « quand on arrive dans une ville, les rues sont vierges, inconnues, et ensuite on va vivre dans cette ville. » On le voit arriver, il sort du bus, il y a quelque chose de super banal dans les images, et puis lui, il en sort quelque chose, et puis il le met en relation, parce que comme il écrit un an plus tard, du coup, il s'est passé des choses pendant un an, et puis il revoit ces images. Et du coup, ça donne de la densité aux images, en fait. Sur des images totalement banales, on les voit avec une espèce d'épaisseur, et c'est ça que je cherche, en fait.
Dans ce qui nous lie aussi, à travers le personnage de Jean Pio Marmaille aussi, qui dit, dans la première phrase, je me suis rendu compte, en regardant les vignes, que tout change.
Alors, il dit quand il est petit, c'est fascinant parce que tout change tout le temps. Et donc, on voit comment les saisons changent les couleurs, changent la vigne et la nature tout le temps. Et puis après, on le voit ayant 20 ans et on sent qu'il n'en peut plus d'être là. Et il dit, en fait, je pensais que ça changeait tout le temps, mais ça change jamais. Et c'est drôle de voir qu'effectivement, les deux sont vrais. C'est-à-dire que c'est fascinant pour un enfant. Et puis, dès qu'on est ado ou qu'on a 20 ans, ça peut devenir lassant.
Alors, le vin, et en particulier dans votre nouveau film, Cédric Lapiche, donc ce qui nous lie, c'est, on l'entend, de la littérature, c'est aussi de la peinture, avec ces saisons qui changent, et puis qu'on songe aux bouteilles peintes par Morandi. Vous avez pu dire que le vin, c'est le seul produit qui vieillisse bien, et moi, ce qui m'est venu, c'est qu'il y a aussi des œuvres d'art qui vieillissent pas mal, et notamment les films. Il y a un film avec un verre de vin, avec des vignes, avec une bouteille qui vous tient à cœur. Moi, j'ai songé à s'en retrouver, d'ailleurs, dans ma mémoire, mais les films de Woody Allen, où on partage comme ça un verre de vin... à Manhattan, il y a des films comme ça associés au vin pour vous ?
Pas beaucoup en fait, c'est drôle à quel point je trouve le cinéma, pas beaucoup de parler de vin, notamment le cinéma français, je me suis posé la question, il y a eu 2-3 films sur le vin, mais dans le cinéma ancien, il n'y a pas beaucoup de choses sur le vin, alors qu'on est vraiment un pays sur le vin. Par contre, enfin, moi, je suis d'accord avec ce que vous avez dit sur le fait que l'idée qu'un film peut bien vieillir, c'est comme un vin qui vieillit bien. C'est l'idée. Enfin, je ne sais pas si vous connaissez le site La Cinéthèque que j'ai participé à créer.
Bien sûr. On avait reçu Céline Sciamma qui nous avait présenté sa sélection.
Les cinéastes qui proposent leur.
Voilà. Et c'est vrai que sur ce site, l'idée, c'est de ne présenter que les films qui vieillissent bien, puisque c'est des films d'avant l'an 2000.
Et pour vous, Laura Vidal, il y a du cinéma, il y a des œuvres d'art, que ce soit des peintures, des sculptures. Qui résonne avec votre pratique et votre expérience de la vigne et du vin?
J'avoue que je bois le vin en général avec les amis. Plus avec de la musique, je dirais. Donc boire du vin, par exemple, avec une musique qui est inspirante, c'est comme il y a des gens qui disent les vins de méditation. Donc c'est les vins, c'est des grands vins entre guillemets. Hein, donc ça peut être un grand Bourgogne qui a beaucoup d'âge. Ça peut être un très vieux Bordeaux des années 80. Ça peut être Ikem.
C'est sympa vos soirées avec vos amis.
Ouais.
Et vous aimez les Pink Floyd, il paraît. Donc c'est en écoutant les Pink Floyd, non sans une certaine ivresse.
Ma mère, elle les écoutait, donc, et je la voyais des fois boire des verres de vin. Les seules fois où elle buvait des verres de vin, c'était avec Pink Floyd. Donc c'est vrai que c'est un souvenir.
on est presque dans le Péril Jeune.
Dans le film, pour les expériences, oui, c'est ça. On peut se retrouver avec une scène de baignoire, comme dans le Péril Jeune.
Du LSD, je sais.
Attention. Et en quoi, pour faire une question plus, peut-être qui rassemblerait ce qu'on évoque dans les ramifications, dans les synesthésies de musique, de peinture, de cinéma et ces métaphores-là, en quoi pour vous, Cédric Lapuche, et peut-être que vous y tenez dans l'expérience transmise par votre père, en quoi le vin fait culture? Même si le mot, l'expression faire culture, vous voyez.
Moi, j'ai l'impression, je le rapproche beaucoup de la culture littéraire. C'est-à-dire que plus on lit, plus on connaît d'auteurs, on connaît Balzac, Flaubert, Tchekhov, Shakespeare, ben on connaît des choses. Et là, avec le goût, quand on connaît le Bordeaux, le vin d'Alsace, le Côte-du-Rhône, le Bourgogne dans le Bourgogne, le Meursault, le Meursault Charme, le Meursault Perrière, ou le Chassagne-Montrachet. Enfin voilà, quand on connaît les appellations, on forge des choses qui justement donnent des mots et donnent une culture. Et il y a vraiment cette notion de connaître des goûts, quoi, et qu'il y a des émotions qui sont contenues dans des goûts. Et c'est vrai que plus on boit, plus on est sensible à ça, quoi.
1, 2, 3. Or, olfactif.
Ouais. Et ça continue pendant le jingle. À suivre dans Ping Pong, donc la mémoire olfactive de Laura Vidal, sommelière. Et puis, on va passer du blanc au rouge ou du rouge au blanc. De toute façon, on va faire des mélanges puisque vous aimez préparer et proposer des cocktails, Laura Vidal, à celles et ceux qui iront donc aux rencontres de la photographie d'Arles avec votre équipe du Paris Pop-Up. Il y aura aussi à manger, en plus d'à boire, on va y venir. Et on est toujours avec ceux qui nous lient et autour et en plein cœur de votre nouveau film, Cédric Lapiche.
On se rend compte d'ailleurs dans ce film que le rock'n'roll va très très bien avec le vin. Nous ferons des accords comme ça, vin, musique, qui sont au prolongement avec la présence de Lior Chauve en live pour conclure cette émission.
Ping Pong, c'est sur France Culture.
Nous avions bien envie de vous emmener un peu dans les vignes ce matin pour apprécier la qualité du 67, mais notre ami Marcel Lugan de l'Institut des appellations d'origine ici présent nous rassure tout de suite. Il vient de nous dire ce qu'il n'ose pas vous répéter sur cette antenne lui-même. 1976, ce sera comme la mini-jupe, ça fera découvrir de jolies choses. Eh bien, ce vin Gaillard et Guigré, vous, saurez-vous bien l'apprécier dans vos bouteilles et dans vos verres?
La présentation est une des choses les plus importantes. Car au fond, si on vous présente une jolie femme en guenilles, eh bien, la jolie femme ne sera pas remarquée. Il ne faut pas naturellement tomber dans un excès, faire, comme on appelle en termes vulgaires, du cinéma. Non, la question n'est pas là. C'est une question de mesure, comme d'ailleurs le vin lui-même.
Alors vous étiez à l'instant en 1967 sur France Inter, c'était un dimanche à la campagne, l'art de consommer le vin, et nous sommes aujourd'hui, eh bien, n'en déplaise à ces messieurs, en 2017, et nous avons affaire à une femme non pas en mini-jupe, mais en short aujourd'hui dans notre studio, et nous faisons du cinéma à plaisir autour de la question de la vigne et du vin. Laura Vidal, donc, lors de ses rencontres de la photographie d'Arles, à partir du 3 juillet, l'équipe du Paris Pop-Up présentera le Chiringuito, une taqueria et un bar à cocktail éphémère. Ce sera du jeudi au dimanche soir, une guinguette festive dans ces lieux du festival. Et puis, il y a aussi, à partir de ce mercredi, à l'hôtel Norpinus à Arles, déjà, un trio avec vous, au vin, si je puis dire, comme on dit, au saxophone. Harry Cummins à la cuisine, qui propose voilà une nouvelle carte. Voilà, on écoutait ces messieurs, un rien sexiste ou macho ou vieux jeu, évoquer la présentation du vin et les bonnes surprises un peu gaillardes et guillerettes. Qu'est-ce qui change? Ce qui change, c'est déjà vous, parce qu'il paraît que vous avez commencé à goûter du vin au Québec en le mélangeant, le couper avec du 7-Up.
Oui,
mais c'est ce que vous allez proposer dans votre bar à cocktail, ou c'est une hérésie?
Non, c'est pas, je pense que les gens doivent faire ce qu'ils ont envie de faire. La liberté pour tous. Mais non, je pense. Enfin, on a fait un cocktail avec du Banyuls Juice Tonic, et c'est très bon. Très bon. Ça fait 2 ans qu'on avait pensé à ça, parce qu'on pensait à faire des cocktails avec le vin, justement. Surtout les vins comme le Xérès, c'est un vin qui marche très bien en cocktail. C'est très à la mode en ce moment, notamment le cocktail bar Cherry Bot à Paris, qui fait des super cocktails à base de ce produit. Après, on peut faire des cocktails avec tous les vins doux naturels, parce que justement, ça amène cette rondeur. Donc, on peut jouer sur les amers à ce niveau-là. Mais dans notre petit chiringuito, ce sera le mezcal qui sera mis à l'honneur, qui est aussi un produit qui nous vient du Mexique, mais qui a l'avantage d'être, comme le vin, produit via le terroir et d'avoir différents types d'agaves qui produisent, selon leur terroir, différents goûts. D'où mon intérêt très grandissant pour ce produit, parce qu'il y a vraiment une notion de terroir. On est moins sur la fabrication et la pâte d'une personne, et beaucoup plus justement sur les choix et le terroir en fait qui est livré chaque année.
On s'en rend compte en vous écoutant, Laura Vidal, hein, ce qui fait culture aussi, c'est d'entrer dans la précision, dans la nuance. Il y a quelque chose néanmoins à souligner, c'est pas la culture traditionnelle du vin que vous défendez, c'est quand même une approche, vous l'avez dit, d'un vin vivant, d'un vin libre, d'un vin pas propre, pour reprendre une expression de ce qui nous lie. Est-ce que c'est proche aussi de votre approche, proche, de la restauration, qui est aussi décloisonnée, on va dire, qui remet un petit peu en question ce que peut être, vous savez que le repas traditionnel français, il est classé patrimoine de l'UNESCO, hein, avec ses entrées, ses plats, ses desserts et tout ce qui va avec.
Ses engueulades
tout,
à la fin.
Tout son cérémonial, ses discussions politiques, bien sûr, aussi dans le patrimoine. Il y a aussi là une réinvention de l'approche de la restauration pour vous dans les pop-up que vous organisez.
Oui, c'était l'idée de voyage et de justement s'imprégner des lieux où on allait et de s'inspirer des produits et des vins et des boissons de chacun de ces lieux. Donc au Japon, c'était la cérémonie du thé vert, la cérémonie du thé, notamment matcha. Quand on est allé à Xérès, bah, c'était justement les jerez et les différents types. Aux États-Unis, on a beaucoup travaillé avec des vins de Californie, d'Oregon. Enfin, on essaie vraiment chaque fois qu'on voyageait ou qu'on allait quelque part de utiliser des produits du coin d'où on était, mais aussi de les traduire dans l'assiette et dans le verre avec notre propre vision. Donc, accord au Japon avec un thé hojicha, c'est un thé vert un peu fumé, et en parallèle avec un Bourgogne rouge. Donc, pour un peu faire un contraste, une comparaison, on retrouvait des odeurs similaires. Et c'est vrai que pour nous, la culture commence par le ventre. Et par le ventre, on peut mettre solide et liquide. Donc, on s'est dit, c'est la meilleure façon de connaître une culture, c'est justement d'y aller de cette approche-là. Et on a beaucoup appris durant nos voyages, justement à cause de ça. C'est un cadeau vraiment qu'on a eu de faire ces événements, et on espère justement qu'on pourra continuer, parce que le voyage culturel et gastronomique aide vraiment, je pense, à comprendre un peuple et une culture.
Cédric Lapiche, on entend Laura Vidal à l'instant évoquer son côté voyageuse et cosmopolite. Elle qui vient du Québec et qui est donc maintenant un des grands noms de la sommellerie à la française. Non, on ne dit pas la sommellerie ? La sommellitude,
la sommellinesse.
Française. Vous aussi, vous êtes ce cinéaste voyageur parti, je crois, à 20 ans, étudier et filmer et photographier aux États-Unis, qui avait cessé de faire des films comme ça, girovagues. Et là, aujourd'hui, avec Ce qui nous lie, vous faites votre premier film rural, on l'a dit, en Bourgogne. Et est-ce que c'est pas une façon de poser votre sac, comme pour votre héros après ses aventures et son tour du monde?
Oui, en même temps, alors justement, le personnage de Pio Marmaille revient d'Australie, il revient d'avoir fait le tour du monde, donc lui, il revient dans son pays riche de voyages. Mais je suis assez d'accord avec ce que disait Laura sur le fait que manger et boire, c'est un voyage intérieur. C'est-à-dire que ce qu'on met dans la bouche, si on met de la menthe avec du yuzu et avec du jerez, il y a un voyage qui se fait, il y a quelque chose qui se passe dans la bouche qui fait que c'est pas juste parce que les produits viennent de l'étranger, c'est parce qu'il se passe des sensations exactement comme quand on part en voyage et qu'il y a dans un repas justement une notion de temporalité, il y a ce qui se passe avec le sucré, ce qui se passe avec l'amertume, ce qui se passe avec des choses comme ça, le salin. Et c'est vrai que quand on boit un vin et qu'on mélange, par exemple dans le Château Yquem, j'adore le côté caramel au beurre salé, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de salé et il y a quelque chose de sucré, et c'est voilà, on voyage quand il se passe quelque chose dans la bouche.
Quand tu commences le vin naturel, tu peux plus t'arrêter. Et quand tu regoutes les autres vins, les conventionnels, pour parler dire les choses vite, ça a juste plus d'intérêt. T'as l'impression de boire des trucs plats, Coca-Cola, du vin, on peut appeler ça comme on veut. Enfin, surtout, c'est monotone et sans intérêt. Et artificiel surtout, ce qui est tout le contraire du vin naturel, qui est vivant, qui est vibrant, qui a une musique, qui est assez rock'n'roll.
Journaliste Antonin Yomi Amunategu, auteur du manifeste pour le vin naturel à l'instant, interviewé dans un documentaire en cours de production intitulé Wine Calling, réalisé par Bruno Sauvard. Il s'agit de présenter ce qu'est le vin nature, dont vous nous avez apporté un certain nombre de définitions ce soir, Cédric Lapiche et Laura Vidal, comme une contre-culture proche de ce qu'a pu être le rock'n'roll, de cette approche finalement comme ça, qui envoie balader une culture traditionnelle, qui est donc aussi festive. On a parlé de Bacchus tout à l'heure, il y a toute une dimension bacchanale, il y a un affranchissement des codes, il y a l'affirmation d'un circuit différent. C'est un vin presque contestataire, et c'est ce que disait Jonathan Nociter avec Résistance naturelle dans son film en 2014. Est-ce que c'est cette dimension-là aussi que vous vouliez raconter, Cédric Lapiche, vous qui êtes toujours... attentif comme ça un peu aux mutations, à ces changements de la société à travers le personnage de Jean Pio Marmaille, qui d'ailleurs a une sonnerie très rock'n'roll et des posters BD plus rock dans sa chambre.
Oui, alors il y a ça, mais le film parle pas tellement du vin naturel, en fait, c'est encore quelque chose de particulier, mais c'est vrai ce que vous dites sur le fait qu'il y a l'affirmation
d'un nouveau... Ceux qui reprennent les exploitations des parents changent quelque chose.
Oui, c'est ça, et que c'est très troublant quand on goûte soi-même le vin naturel, parce que il y a des choses troubles, il y a des choses très amères, il y a des choses, ça ressemble à du cidre pas fini, ou il y a des choses comme ça qui sont très troublantes quand on connaît le vin avec son côté justement sophistiqué, filtré, tout ça. Donc il y a vraiment le fait que... il y a une nouvelle mode d'apprécier des choses qu'avant on trouvait bizarres. Et ça, c'est intéressant parce que finalement, on s'aperçoit que le vin, c'est traditionnel. Il y a vraiment quelque chose qui est issu du passé, mais il y a aussi des choses qui évoluent tout le temps. Et le vin naturel, notamment, c'est une nouvelle façon d'apprécier le vin.
Laura Vidal, à l'instant, Mathilde rappelait la dimension contre-culturelle du vin. Vous avez commencé par des études dans la finance avant d'être aujourd'hui sommelière. C'est-à-dire qu'il y a des points communs entre ces deux disciplines, ces deux champs d'activité, ou au contraire, c'est une antithèse et c'est votre côté punk qui a pris le dessus?
J'étais en finance et je savais pas trop ce que je voulais faire, mais c'est vrai que quand j'ai commencé à travailler en finance, j'ai vite réalisé que c'était absolument pas ce que je voulais faire avec ma vie, et j'ai en effet fait comme une genre de rébellion, je m'en vais, je quitte et tout, et sur un coup de tête, et donc je suis partie travailler dans la restauration. Je dirais pas que c'était le vin tout de suite qui m'a interpellée, mais c'est sûr que quand ça m'a interpellée, j'ai été tout de suite très curieuse. Et quand on parle justement tout à l'heure, Cédric disait le vin naturel, c'est vrai que il faut y arriver. C'est comme pour comprendre le vin en général, il faut, je pense, passer par les grands classiques pour ensuite affiner et être plus ouvert d'esprit sur d'autres choses potentiellement qui sont un peu en effet troubles, amères et étranges. Mais justement ça c'est bien parce que ça nous challenge, qu'on se soit négatif ou positif, c'est un peu comme l'art, parfois c'est subjectif, donc on peut dire oui, j'adore cette œuvre, ou bien non, ça me dérange beaucoup. Mais l'intérêt, je pense que c'est d'essayer de comprendre pourquoi. Et donc, c'est ce que je défends vraiment, et ça a pris le temps que ça a pris, mais j'ai pas été immédiatement fan des vins naturels, ça a été quelque chose qui est venu avec le temps, et maintenant je défends ça, mais vraiment lorsqu'ils sont bien faits et qu'ils goûtent
pareil,
bien.
Ouais, je suis d'accord. Ouais.
L'idée de la contre-culture, c'est quelque chose qui vous paraît judicieux par rapport au vin, peut-être la production iconographique des étiquette de vin naturel qui est très différente. On peut penser à la production iconographique des pochettes de disques à l'époque, si on veut continuer à filer la métaphore. L'esprit aussi de ces jeunes vignerons qui sont eux-mêmes très très différents de ce que pouvaient être les exploitants de viticoles avant. C'est une contre-culture.
En effet, je pense que c'est un des affranchissements. C'est une façon de se rebeller un peu contre le status quo et d'essayer de trouver différentes réponses à ça. Des fois c'est réussi, des fois c'est raté. Mais c'est vrai qu'il y a une espèce d'élément de rébellion. Il y a aussi un élément très festif dans tout ça. Quand on va dans les salons des vins naturels, ça devient des bringues pas possibles jusqu'à la fin de la nuit, jusqu'au petit matin. Mais il en sort toujours l'amour du vin et l'amour du partage, et justement d'essayer de trouver des meilleures façons de travailler au niveau agriculturellement. Et aussi
vous commencez à perdre les consonnes.
Oui, je commence à perdre les consonnes. Et pourtant, il n'y a que de l'eau.
Alors, comme on passe des traditions et des classiques pour aller vers la nouveauté du côté des vins, et c'est la même chose en musique. On peut passer de Statu Quo que vous évoquiez ou de Pink Floyd à Liorchov.
Ping pong. La culture sans limite.
Elle est à la fois puissante et délicate. Et je ne décris pas ni la robe d'un vin, ni une cuvée, mais une chanteuse, compositrice, performeuse, poète, improvisatrice. Elle est trempée d'un acier fragile. Voilà, comment le dire mieux. Liorchov me fait penser à Cat Power sur scène lorsqu'il faut la porter pour finir un concert et arriver au sublime, au miracle. Tant de temps pour se décider à faire un disque, pour atteindre la vérité, le temps d'un instant. Lior, ça veut dire la lumière en hébreu. Et a décidé de la tisser dans toutes les langues, y compris sa langue imaginaire, mais il y a aussi du français, de l'anglais, de l'espagnol, car elle s'est installée en Espagne. Liorchov a décidé de faire une musique qui ressemble au vin nature, une musique sauvage. Ouais. Espagnol. Tengo esta voz, mamá. Voilà, chama ça, ouïkenet. Dama, ouïale. Dalaï. Tatak. Dama, ouïsen, wa, ouïa, wa, ma foi. So, wa, pa, tao. La, 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 là où tout est, tout c'est pas vers où tout va passer après. Alors chante de là où tout est. Chante de là où tout est, tout c'est pas vers où tout va passer après. Alors chante de là où tout est. Chante tendresse, chante ta rage, chante les rencontres, les voyages, les coins de rue, les petits passages. Chante pour les fous, chante pour les sages. My hour so on the wall, power swing. Chante de là où tout est, tout c'est pas vers où tout va passer après. Alors chante de là où tout est. Chante qui tout est, qui tu sais que tout c'est, qui est tout son, tous ses pensées, qui connaît. Chante qui tout est, qui tu sais que tout c'est, qui est tout sans, tous ces pensées qui vont peser sur tous tes sens. Les chants se cachent dans le silence. Ma voix saying in the way I want to rap et I sing a la thing, oh yeah, yeah. Chante pour marcher, marche pour danser, danse pour aller juste à côté. Côté de la mer, côté de la nuit, côté de l'amour, côté de la vie. Côté de la vie. Paradarara papaye. Paradarara paraye. Mawa wasa wape mawa. Tiyamba na na mapie tibidilandela. Siyaya yanga. Chante pour celui qui baisse la tête, pour les enfants qui font la fête, pour tous ces gens qui ont oublié que eux si elles peuvent chanter. Papaye, 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 papaye. Bravo. Donc chanteuse, performeuse, compositrice, poète, interprète et puis toute longue sortie, Liorchov. Donc avec ce premier album Musique Sauvage qui a été publié chez Pias et puis ce Côté de la vie qu'elle nous chantait à l'instant dont Chante là où tu es, Liorchov. Est-ce que vous pouvez nous rejoindre une seconde?
Ah oui, je peux.
Est-ce qu'on pourrait décrire avec vous? Vous avez fait la première partie de Camille, c'était au printemps de Bourges, et on sent qu'évidemment il y a une sororité entre vous avec ce travail des percussions sur le corps, avec cette espèce de effectivement de sauvagerie et d'inouï dans la proposition. Comment vous la décririez, vous, la langue de Liorchov, vous, la chanteuse israélienne, mais de partout en même temps?
Alors en chemin. Et en cherchant, en tabouillant, en crifti bijion, bostivia qui ont panfan, un peu sur la route. Ce langage-là qui se cherche.
Et la musique?
Ah, et la musique, pareil, elle se cherche avec moi. On se cherche.
Qu'est-ce qui a fait que vous avez mis tant de temps à le faire, ce premier disque, Musique Sauvage?
Alors,
Une dizaine d'années, je crois.
Ouais, ouais, ouais. Bah, j'ai questionné pas mal de choses et ces questions ont trouvé quelqu'un qui avait envie que de produire ces questions. Bah, je continue à me questionner, mais je sais pas. Peut-être c'est pour ça que ça a mis si longtemps parce que j'avais jamais des réponses encore.
Merci, Your Show en live dans Ping Pong et merci d'avoir accepté de nous répondre. Ping Pong. En posant des questions, bien sûr. C'est presque fini.
À la radio, au cinéma, il y a le goût et l'odeur qui ne passent pas. Il y a vraiment quelque chose qui est très vite sensoriel et qui devient sensuel.
Je pense que c'est la notion d'ivresse, en fait.
Eh bien, au cinéma, désormais, le goût, l'odeur, l'ivresse et la fraternité passent dans votre nouveau film, Cédric Lapiche. Ce qui nous lie, c'est en salle mercredi avec, on le disait, Pio Marmaille, Anna Girardot, François Civil et Eric Caravaca dans le rôle du père qui transmet le goût du vin à ses enfants. Et tous ces sens et toutes ces sensations passent aussi, ça se passe du côté d'Arles, avec vous, Laura Vidal, avec Harry Cummins en cuisine et encore d'autres invités. Déjà, ça se passe au Chardon, restaurant en plein cœur d'Arles. Ça se passe à partir de mercredi à l'hôtel Norpinus, toujours en Arles, avec une nouvelle carte qu'on vous doit. Et enfin, à partir du 3 juillet, dans le cadre des rencontres de la photographie d'Arles, eh bien, votre équipe installe El Chiringuito, une taqueria, un bar à cocktail éphémère. Je rappelle quand même, parce que le CSA va nous tomber dessus, que la consommation excessive d'alcool est malgré tout la deuxième cause de mortalité évitable après le tabac. Donc il faut profiter de tout ça, simplement avec mesure.
Bien sûr. Merci Martin, c'était important. Et on rappelle que le ping-pong est une vigne radiophonique du coup, hein, qui se cultive en équipe et qui ne se boit pas forcément. Et quelle équipe ? À la rédaction, Aïssatou Endoy, Jeanne Alios, Seam Boutata, Anna Baron et exceptionnellement Shoshane Djergaillan qui nous a également aidé aujourd'hui à la réalisation Thomas Beau, à la prise de son Jean-Guilain Meige et Alex Dang.
Demain, eh bien, des interviews au théâtre avec Pascal Rambert et Nicolas Truong.